du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Toulouse, 97.9.
Soyez les bienvenus, il est tout juste 12h01 sur les pendules de Radio Présence. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. J'ai le plaisir d'accueillir en duplex Anne-Rose Jankovic. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Dans un instant, on parlera du projet sur la fin de vie.
Oui, tout à fait. J'aurai à mon micro le docteur Philippe Deguiral. Il est médecin oncologue à l'hôpital de Tarbes et il nous donnera sa réaction suite au vote à l'Assemblée nationale par les députés de la loi sur l'aide active à mourir.
Deuxième invité à votre micro après 12h30, c'est le préfet des Hautes-Pyrénées.
Jean Salomon sera effectivement à mon micro pour réagir à la dégradation des locaux du parc Val d'Adour dont on a parlé mardi dans cette émission. Il nous dira ce qu'il en pense. Et puis nous parlerons aussi de l'accueil des communautés itinérantes dans notre département des Hautes-Pyrénées.
Et dans un instant, direction Bayonne. Pourquoi Bayonne ? Et parce qu'on va évoquer l'actualité et l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour ce diocèse. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on prendra un peu de fraîcheur et d'altitude avec le regard des écrivains sur les Pyrénées. Anne Lasserre, cette semaine, a sélectionné cet auteur britannique, Charles Richard, qui a sillonné les Pyrénées d'ouest en est. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Émission qui démarre avec l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres et Clément Seroux qui est avec nous.
Bonjour à tous, une enquête pour féminicide est ouverte à Toulouse après la découverte du corps d'une femme d'une cinquantaine d'années. Son compagnon est en garde à vue. 7 ans après le drame de Mirepoix-sur-Tarn, la reconstruction du pont franchit une nouvelle étape. Les travaux débuteront en septembre pour une mise en service prévue au printemps 2028. À Ramonville-Saint-Agne, le pont historique Mange-Pomme est de nouveau ouvert à la circulation après plusieurs mois de travaux de consolidation. Haute-Garonne, l'interdiction de vendre, détenir ou consommer du protoxyde d'azote dans les espaces publics est prolongée jusqu'au 30 septembre. Et l'opération Tranquillité Vacances est relancée dans le Gers. Les habitants peuvent faire surveiller leur domicile pendant leur congé afin de prévenir les cambriolages. Enfin, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les vols de nuit seront progressivement réduits avec l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions destinées à limiter les nuisances sonores. Voilà pour les titres.
Merci Clémence Roux. On vous retrouve tout à l'heure dans une demi-heure pour développer ces titres dans le journal régional. À tout à l'heure.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Direction Bayonne maintenant dans cette émission pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre antenne Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse et on commence avec le Secours catholique qui organise sa braderie d'été à Morlas, à quelques kilomètres de Pau.
Oui, tout à fait. Donc c'est le 3 et le 4 juillet, vendredi et samedi prochain, de 10h à 17h. Donc c'est une braderie, il y aura des bonnes affaires à faire puisqu'il propose 50% sur l'ensemble de la boutique. J'insiste parce que c'est un vrai enjeu pour pouvoir financer toutes les actions d'accompagnement qui sont menées tout au long de l'année auprès des personnes en situation de précarité. Donc vraiment, n'hésitez pas que vous ayez envie simplement de soutenir l'association ou vous dénicherez peut-être une petite pépite. Donc n'hésitez pas, c'est au 22 rue des Cordeliers à Morlas, vendredi et samedi 4 juillet. Et puis, j'en profite aussi parce que le 4 juillet, à Salis de Béarn, il y a les grandes tablées, toujours du Secours catholique. Hein. C'est vraiment un esprit de rencontre, de partage, entre 10h et 12h, c'est place de la mairie. N'hésitez pas à venir rendre visite aux bénévoles du Secours catholique.
Voilà, un stand sera installé au cœur du marché. C'est du côté donc de Salis de Béarn.
Tout
à fait. On poursuit avec de la musique. C'est l'été, c'est la bonne période pour aller écouter des concerts dans les églises et c'est le cas à Navarinx avec un concert qui est proposé ce 3 juillet, ce vendredi.
Oui, à 21h, c'est le chœur de chambre des pierres lyriques qui vous propose un concert pour redécouvrir ou découvrir l'univers à la fois spirituel et romantique du compositeur espagnol Hilarión Eslava. Il y aura deux œuvres majeures qui seront présentées, un requiem et deuxième, je ne sais plus, c'est une pièce de tradition musicale espagnole. Vous retrouvez toutes les infos sur le site diocèse64.org.
Autre concert qui est proposé, cette fois-ci c'est du côté de d'Oloron Sainte-Marie et c'est deux chorales qui vont se produire.
Oui, tout à fait. Donc c'est samedi 4 juillet à 18h dans la cathédrale d'Oloron. Un concert de deux chorales, vous avez tout à fait raison. Le chœur Filia de la Villanelle et un chœur gospel. Il y a vraiment des chants beaucoup plus classiques comme les cinq nocturnes de Mozart et puis des chants inspirés des Negro Spirituals. N'hésitez pas à venir à la cathédrale donc ce samedi 4 juillet à 18h.
Une semaine intergénérationnelle est proposée du côté de Navarinx. C'est pour rassembler, faire grandir l'esprit de famille. C'est une belle initiative à souligner.
Oui, tout à fait. Donc c'est du 6 au 10 juillet, hein, la première semaine des vacances scolaires. C'est à la maison Notre-Dame-des-Gaves à Navarinx, au programme des chasses au trésor, des conférences, des moments entre adultes. Mais l'idée, c'est vraiment que toutes les générations puissent se retrouver et en cultivant cette joie d'être ensemble. Vous avez juste à vous inscrire. C'est effectivement aussi sur le site du diocèse. Un petit clic pour dire que vous venez avec vos parents, vos grands-parents, vos petits-enfants. Profitez de cette belle semaine esprit de famille.
On poursuit avec ce week-end, c'est le départ du Tour de France et le Tour de France sera de passage à Pau la semaine prochaine et à cette occasion, Mgr Marc Hayet présidera une messe.
Oui, alors la messe sera donc le jeudi 9 juillet à 8h à l'église Saint-Martin, à Pau, avec bénédiction des vélos. Donc que vous ayez votre vélo parce que vous êtes un grand coureur sur les monts de notre Béarn, ou alors simplement parce que vous l'utilisez tous les jours, n'hésitez pas à venir à cette messe. Plusieurs animations également auront lieu autour du passage du Tour de France, avec notamment, on invitera les résidents des maisons de retraite Sainte-Marie et des écureuils à venir assister au passage des coureurs. On remettra des petites images prières, la prière du cycliste. Il y a tout un temps qui est prévu avec l'équipe Holy Games de la Conférence des évêques de France pour mettre un peu de spiritualité au sein du Tour de France et surtout pour montrer que l'Église est vivante. Donc les cloches sonneront au passage des coureurs du Tour de France. Donc n'hésitez pas, les infos sont sur le site pour nous rejoindre au passage des coureurs sur Pau. Voilà, le 8 et le 9.
8 et 9 juillet, et la messe donc présidée par votre évêque, c'est le 9 juillet 8h en l'église Saint-Martin à Pau, donc à l'occasion du passage du Tour de France. C'est là-dessus qu'on referme cet agenda estival concernant le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Les infos, on les retrouve sur diocèse64.org. Et moi, je vais vous remercier, Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication et on se dit à la semaine prochaine sur Radio Présence. Très bon week-end à Bayonne.
Merci beaucoup Gilles, bon week-end à vous.
Gamin, écoute, faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment. Faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes. Mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang. Des familles nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et danse et danse dans le vent. Petit regarde droit devant. Des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini. Tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie. Tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment. Faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes. Ah tu peux rire maintenant. Petit regarde cet étang. Des familles nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Petit regarde droit devant. Des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Mais allez viens. Y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Y'a pas que ton frère, que ton frère.
Bon appétit à l'écoute de Radio Présence. Dans un peu plus d'un quart d'heure, à l'actualité régionale avec Clémence Roux. Pour le moment, c'est Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour docteur Philippe Deguiral.
Bonjour.
Vous êtes docteur médecin oncologue à l'hôpital de Tarbes. Avec vous, on va parler de cette proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, puisque les députés ont adopté en troisième lecture à l'Assemblée nationale en ce début de semaine, à 295 voix pour et 232 contre, ce texte qui doit repartir au Sénat avant de revenir à l'Assemblée le 15 juillet. Il y a cette fois-ci 63 voix d'écart entre les pour et les contre. Ça s'est un peu réduit, cette histoire-là. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce texte, il n'est pas une évidence? D'ailleurs, si il a dû passer une troisième fois à l'Assemblée nationale, c'est que l'engagement de ce texte, la proposition de cette loi relative au droit à l'aide active à mourir, n'est pas une évidence pour nos députés et pour nos citoyens.
Je ne sais pas si c'est la principale raison pour laquelle il passe une troisième fois, parce qu'on connaît les tendances politiques, philosophiques et autres entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais en tout cas, il faut bien définir les choses, et cet avantage n'est pas si important que ça, comme il est annoncé dans les médias, où on dit même avance confortable, très importante, et au final, on remarque qu'effectivement, il y a peu de... c'est pas une immense majorité.
Pour vous, qu'est-ce qui se joue dans ce texte? On sait qu'il y avait deux volets hein, à l'origine, un volet donc sur ce droit à l'aide à mourir et puis un volet sur les soins palliatifs. Alors sur les soins palliatifs, c'est un volet qui fait davantage l'unanimité, on l'a bien vu. En tous les cas, pour ce volet sur l'aide à mourir, c'est quoi au fond qui se joue pour vous, soignants?
Ah ben nous, c'est un changement de paradigme complet, c'est un changement pour les personnes qui travaillent, que ce soit des soignants, des médecins, des bénévoles, qui travaillent auprès, qui sont en lien auprès de patients qui sont en fin de vie, c'est un changement complet, c'est un changement de sens du soin, c'est introduire dans le soin l'euthanasie, alors que c'est contraire à toutes nos valeurs et à tous nos fondements de travail, au serment d'Hippocrate, chez les soignants également. Dans le soin palliatif, on met beaucoup en avance les soins palliatifs, mais la philosophie des soins palliatifs, dans les premières lignes, c'est écrit noir sur blanc. Par définition, on ne fait pas appel à l'euthanasie et au suicide assisté. Donc pour nous, ça, ça change profondément les choses, profondément.
Alors, il y a des conditions hein, pour accéder à ce droit à mourir. Elles ne suffisent pas, ces conditions, ou elles ne vous rassurent pas ?
Non, bien entendu, il suffit d'être factuel et de regarder l'histoire. Les quelques pays, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que quelques pays hein, dans le monde hein, qui ont légalisé l'euthanasie, et notamment, prenons en exemple la Belgique, tous ces garde-fous étaient initialement tracés, comme en France actuellement, il y a 10-15 ans, et puis on voit que petit à petit ils sont reniés, puisque maintenant en Belgique, on peut euthanasier des mineurs, on peut euthanasier des personnes qui ne sont pas en phase terminale d'une certaine maladie. Donc, et d'ailleurs, de toute façon, on voit bien en France des discours, pas forcément ceux qui proposent la loi, mais il y a des discours qui vont dans ce sens pour aller beaucoup plus loin. Donc, il ne faut pas se leurrer. Hein, dans les années qui viennent, la tendance sera à aller beaucoup plus loin et à faire sauter les garde-fous petit à petit.
Ça veut dire, très concrètement, au quotidien, pour vous, soignants dans les hôpitaux, pour vous qui accompagnez ces personnes qui sont en fin de vie, encore peut-être faudrait-il rappeler ce qu'est une personne en fin de vie, à partir de quand on peut considérer que la personne est en fin de vie, mais pour vous, soignants, ça veut dire concrètement quel changement dans la pratique de vos soins ?
Ce que vous venez de dire, il faudrait rappeler ce qu'est une fin de vie, mais c'est très compliqué. Justement, le problème, c'est que c'est très compliqué à définir. C'est comme le sentiment d'indignité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la dignité ? Nous, ça va changer que jusqu'à présent, nous accompagnons les personnes, quelles qu'elles soient, nous respectons leur dignité, qui est au fond d'elle-même, quelle que soit notre religion, nos opinions politiques et autres. Et là, il va y avoir un autre paradigme, d'autres possibilités qui vont changer complètement, puisque actuellement, nous essayons le plus possible de calmer la souffrance, de rendre les gens les moins inconfortables.
Donc ça, c'est le rôle des soins palliatifs.
Oui, mais ça, c'est les soins palliatifs, ce n'est pas seulement dans une unité de soins palliatifs. La phase palliative, elles peuvent être traitées dans beaucoup de services.
Et y compris à domicile.
Voilà. Et les services, les soins à domicile et autres qui travaillent, qui essayent régulièrement et progressivement de s'améliorer dans cet accompagnement, donc vont avoir une autre possibilité qui va profondément changer leur valeur et leur être, en fait. Tout en sachant que, fort probablement, dans beaucoup de services, les soignants vont déposer leur clause de conscience. Et ça va créer probablement des quiproquos, des difficultés peut-être relationnelles entre soignants, entre médecins. Voilà, moi je connais un service très proche de moi où on accompagne des gens en phase terminale et je sais que 100% des médecins ne vont pas vouloir faire de l'euthanasie.
Alors qu'est-ce qui va se passer ? Alors, parce que concrètement, si un patient réclame ce droit à l'aide à mourir et que les soignants autour de lui refusent de l'aider dans ce sens-là, d'aller dans son sens, qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien, il faudra faire appel à un autre médecin, à quelqu'un d'extérieur au service. Après, il va y avoir toute une organisation à mettre en place, parce que où va se faire cet acte, dans quelles conditions et par qui, hein, puisque je sais que la loi a oublié les pharmaciens, on n'a pas voulu mettre les pharmaciens qui eux aussi voulaient avoir le droit de déposer leur clause de conscience, mais il va y avoir une prescription, une hospitalisation, une délivrance de médicaments, un suicide assisté proposé en premier lieu pour les gens très conscients et qui peuvent se suicider.
Pas de clause de conscience prévue pour les pharmaciens qui auront à délivrer le médicament qui fera mourir.
Qui auront à stocker, à recevoir la prescription et à transmettre les médicaments pour abréger la vie des personnes.
Pardon, docteur Philippe Desguiral, mais on a du mal à comprendre une chose, c'est que vous êtes soignant. À travers ce que vous nous dites, on comprend que vous êtes entouré de soignants pour qui cette loi n'est pas une évidence, en tous les cas, n'est pas forcément une bonne chose. Mais à quel moment les soignants ont pu dire ça, ont pu être entendus ? Enfin, on a du mal à comprendre comment une loi qui implique en première ligne les soignants puisse passer contre la vie et contre l'expérience, l'expertise des soignants précisément.
Oui, alors c'est très important ce que vous venez de dire parce que, bien entendu, hein, il faut supprimer le grand pouvoir médical omnipotent et ainsi de suite. Et en même temps, c'est à lui qu'on donne la responsabilité ultime de vie ou de mort. Donc c'est très important. Maintenant, je sais, après avoir rencontré beaucoup de gens du grand public, de citoyens autour de moi, c'est vrai qu'ils ne s'étaient pas forcément posé la question de savoir qui allait faire ça et dans quelles conditions. Pour les législateurs, pour certains, ça peut paraître une grande évidence, mais non, ce n'est pas tout à fait évident.
Vous voulez dire que pour le législateur, eh bien, c'était évident que les soignants allaient pouvoir poser cet acte sans se poser de questions ?
Oui, j'ai entendu dernièrement quelqu'un, une des personnes soutenant ce projet de loi et même peut-être à l'Assemblée nationale, dire que ça allait permettre même d'améliorer les soins palliatifs et que l'euthanasie ou le suicide assisté rentrait dans le cadre de soins palliatifs, serait un soin. Mais il faut savoir que de nombreuses associations de patients, nombreuses associations de soignants, de médecins, des organismes, ont même signé une charte, un texte il y a je crois 2 ans, témoignant, en tout cas exprimant le fait que pour eux ce n'était absolument pas un soin. Voilà, donc et même si on minimise les choses en parlant de suicide assisté tout en ne donnant pas ce terme, hein, Albert Camus disait que ne pas nommer les choses participait au malheur du monde, mais vous remarquerez que le mot euthanasie et suicide assisté ne sont pas nommés dans cette loi. Alors que c'est ça, c'est la définition. Il faut définir les choses.
D'ailleurs, on parle d'un droit. Là, on parle. C'est même le fait d'employer le terme droit dit quelque chose de l'ambition qui est derrière.
Oui. Mais là, c'est toute une discussion. Il faudrait passer des heures sur le droit, la liberté. Voilà. Regardez, on parle de la liberté. Chacun, il y a la liberté de se suicider. Hein, on a. Dans la société, et même si on met en place depuis quelques années, on entend beaucoup parler un plan contre le suicide. Donc vous imaginez un patient qui, et ce qui est tout à fait normal, se dirige aux urgences aujourd'hui, se présente où il a été découvert à la suite d'un suicide ou une tentative de suicide, on va tout faire pour le réanimer, et là on met en place dans la loi la création d'un suicide.
Donc vous pointez du doigt une incohérence, quoi.
À mon avis, oui, oui.
Est-ce que, selon vous, si on avait pu ou su ou voulu déployer les soins palliatifs tels qu'ils devraient l'être, finalement, ce texte, ce volet là sur le droit à l'aide à mourir, il n'aurait pas vu le jour si les soins palliatifs avaient été déployés comme il faut.
Ce que je sais, ce que je peux témoigner, c'est que dans des services, dans des organisations d'hospitalisation à domicile, où on va dire qu'on fait au mieux, je dis bien au mieux. Pour l'accompagnement des personnes en fin de vie, les demandes d'euthanasie sont exceptionnelles, voire inexistantes.
Donc, faire au mieux, ça veut dire soulager la souffrance physique, psychologique, voire spirituelle du malade.
Tout à fait. L'accompagnement complet, avec présence de la famille, et puis traitement des symptômes, et notamment de la douleur. Je ne nie pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fins de vie qui ne se passent pas correctement, entre guillemets, excusez-moi du mot correctement, où les gens souffrent. Et probablement que les témoignages sont tout à fait vrais, même si parfois ils sont fantasmés au niveau de certains législateurs, mais moi-même, j'ai été le témoin d'accompagnement qui ne s'était pas passé dans de bonnes conditions, et je comprends très bien que les personnes autour de moi, autour de cette personne...
Oui, voilà, la personne qu'ils aiment souffrir de manière atroce,
voilà. C'était la meilleure solution, c'était l'euthanasie. Mais est-ce que vous pensez qu'en légalisant l'euthanasie, les services et les organisations aujourd'hui qui ne sont pas, excusez-moi encore, entre guillemets, au point, vont s'améliorer? Je n'en suis pas certain. Vraiment pas certain.
Vous vous sentez, vous, docteur Philippe Téguiral, dépourvu de moyens pour soulager complètement la douleur des personnes qui souffrent?
Moi, j'ai un certain âge, j'ai plus de 60 ans, je suis oncologue médical, je ne me mets pas en avant. Hein. J'ai bien le souvenir de difficultés pour les fins de vie de certains patients. Mais je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens, de connaissances et d'organisation pour que ça se passe au mieux par rapport à il y a 20-30 ans. Ça, c'est une réalité. Mais on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire et je pense que c'était la priorité. Et quand on regarde les sommes allouées qui sont prévues dans le premier volet de la loi, vous remarquerez que c'est pour 10 ans. Hein? Donc, vous divisez par 10 et vous divisez par le nombre de départements et vous allez voir les sommes allouées dans les services, d'autant plus qu'aujourd'hui, il manque des médecins dans tous les services et des soignants partout.
On a donc encore une grande marge de progrès à faire sur ces soins palliatifs. On arrive au terme de cet entretien, hein, docteur Philippe Deguiral. J'ai quand même une dernière question. Ceux qui défendent ce texte sur le droit à l'aide à mourir parlent de dignité, de fraternité. Ma dernière question, c'est pour vous, c'est quoi? Pour vous, soignants, c'est quoi la dignité? La fraternité, ça veut dire quoi?
La fraternité, c'est de reconnaître la personne qui est en face de nous comme très très importante, quel que soit son poids, quelle que soit sa souffrance, quel que soit son état général. La dignité, pour beaucoup de personnes, et c'est pas seulement un sentiment religieux, elle est inhérente à la personne. Cette dignité, elle disparaît une fois que la personne est décédée. Le sentiment de la dignité, c'est autre chose. Je pense que les personnes qui sont favorables à cette loi pensent plus au sentiment d'indignité qu'à la dignité elle-même, mais c'est tout un débat de société. Et par rapport à la fraternité, je pense aussi à la vulnérabilité. Et on sent bien que cela va continuer à créer des inégalités dans la prise en charge, dans les soins, et que les personnes les plus vulnérables, les plus isolées, qui se sentent inutiles, pour ces personnes-là, on est quasiment certain qu'il y aura beaucoup plus de demandes d'euthanasie avec des sentiments et des causes parfois indirectes et parfois pas très sympathiques.
Merci pour vos réponses, docteur Philippe Deguiral. Je rappelle que vous êtes médecin oncologue à l'hôpital de Tarbes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci.
Merci Androse Jankovic. Androse, on la retrouve dans un instant, juste après le journal régional. Le journal est présenté aujourd'hui par Clément Sauroux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, à Toulouse, une enquête pour féminicide est ouverte après la découverte du corps d'une femme d'une cinquantaine d'années à son domicile. Son compagnon a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du drame. La reconstruction du pont de Mirepoix sur Tarn franchit une nouvelle étape. Les travaux débuteront en septembre. Il remplacera le pont qui s'était effondré en novembre 2019, provoquant la mort de deux personnes. Sa mise en service est prévue au printemps 2028. Autre chantier, cette fois aux portes de Toulouse, à Ramonville-Saint-Agne, le pont historique Mange-Pomme, qui enjambe le canal du Midi, a rouvert à la circulation après plusieurs mois de travaux. Fragilisé par le temps, il menaçait de s'effondrer. Il est désormais de nouveau accessible aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons. Dans le reste de l'actualité, le préfet de la Haute-Garonne prolonge jusqu'au 30 septembre l'interdiction de vendre, de détenir ou de consommer du protoxyde d'azote à des fins récréatives dans les espaces publics. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. L'objectif est de protéger la population aux effets du gaz hilarant. Et si vous partez bientôt en vacances et que vous vivez dans le Gers, pensez à l'opération Tranquillité Vacances. En vous inscrivant auprès de la police ou de la gendarmerie, votre domicile pourra être surveillé pendant votre absence grâce à des patrouilles régulières. Enfin, la réduction des vols de nuit à l'aéroport de Toulouse-Blagnac devient officielle. De nouvelles restrictions vont progressivement entrer en vigueur afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains, tout en préservant l'activité de la plateforme. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Merci Clément, pour retour de l'info sur notre antenne dans une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Pour le moment, à la mi-journée à 12h30, on retrouve Androse Jankovic et son invitée. Elle reçoit le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour Monsieur le Préfet.
Bonjour Madame.
Le parc Val d'Adour à Rabastens de Bigorre a été saccagé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin dernier à l'aube du marché hebdomadaire, le marché aux bestiaux. Alors ça pourrait sembler presque rien, sauf que ce lieu, c'est un lieu un peu stratégique quand même pour l'économie agricole locale. Hein. Ce parc aux bestiaux, ce marché aux bestiaux à Rabastens de Bigorre, il est le seul dans les Hautes-Pyrénées. Il n'y en a pas d'autres non plus dans les départements limitrophes. Là, on parle quand même de murs tagués, d'excréments humains laissés dans les bureaux, de matériel cassé. D'abord, quelle est votre réaction sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous en savez de ce qui s'est passé à Rabastens de Bigorre?
Alors, la dégradation du marché de Rabastens de Bigorre, je la condamne. Je la condamne avec la plus grande fermeté. C'est inadmissible et je la condamne d'autant plus que l'État s'est engagé fortement ces dernières années au regard de l'aspect stratégique de cet outil pour le monde agricole. Alors notamment au travers de subventions, hein, c'est plus de 281 000 euros de subventions qui ont été versés pour améliorer donc tous les travaux qui ont été dégradés par des auteurs qui ne sont pas encore identifiés par la justice au moment où on se parle. Toutes ces dégradations, c'est un peu aussi une partie de l'argent public qui de l'État qui a été dégradé et qui porte atteinte au monde agricole. Donc c'est inadmissible, ce doit être condamné. Les dépôts de plainte ont été déposés, alors notamment par la maire de Rabastens de Bigorre et par le président d'LVA. L'objectif, c'est que derrière, on arrive à retrouver et identifier précisément les auteurs de manière à pouvoir faire réparer les dégâts. C'est le principe de notre justice en France.
Alors, on entend que l'État a déjà injecté de l'argent pour ce site. Le directeur du parc, Pierre Bazette, parle de 20 000 euros là, de matériel cassé qu'il faut remplacer. Ça, c'est sans compter les centaines de milliers d'euros qui sont liés à la vente des bêtes qui a dû être annulée, puisque le marché a été annulé lundi dernier. Est-ce que, du coup, l'État va encore aider? Qui et comment décide de l'aide ou pas de l'État pour réparer ce qui a été cassé, quoi.
Alors dans ces moments-là, d'abord, il y a un temps pour tout et il faut faire les choses dans l'ordre. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de ne pas annuler une seconde vente au marché de Rabastens et tout faire, en tout cas localement, même si tout n'est pas impeccable sur les murs, pour pouvoir réaliser la prochaine vente, parce que c'est important. C'est des animaux qui sont prêts à être vendus, prêts à être exportés. Donc il faut pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Donc ça, c'est important. Après, sur le règlement, ça dépend si on identifie les auteurs, évidemment. Si les auteurs sont identifiés, ils sont condamnés, ils rembourseront les dégâts. S'ils sont pas identifiés dans un premier temps, je rediscuterai, ils le savent, avec Pierre Bazette d'LVA pour trouver une solution intelligente qui permette de remettre en état ce bâtiment. J'y étais il y a pas longtemps. Ils étaient en train de terminer la pose des bandes de plâtre dans les couloirs. J'avoue que de voir les tags, de savoir tout ce qui a été dégradé.
Vous êtes allé là sur place?
Non, je ne me suis pas déplacé sur place, mais la description qu'on m'en a faite suffit et vous l'avez complétée. Mais c'est de la dégradation gratuite. J'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui dégradent un outil de production, alors que la communauté de communes Adour-Madiran, la maire de Rabastens sont des gens qui sont toujours dans des dispositions aidantes et bienveillantes pour faire en sorte que la vie ensemble se passe bien sur leur territoire.
Pour vous, est-ce que c'est le monde agricole qui était visé ou c'est plus de l'ordre de la bêtise? Ou vous préférez attendre que la justice fasse son travail? Alors, avant de le dire?
Je vais laisser la justice faire son travail, évidemment, parce que quand je vous dis que j'aimerais être dans la tête pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est sans doute un vœu pieux. Mais moi, ce que je considère vraiment sur ce dossier-là, c'est que je ne crois pas que ce soit une atteinte au monde agricole. Je crains que ce ne soit que de la bêtise humaine, mais ça reste inadmissible. On n'a pas, je condamne, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le monde agricole, lorsque le monde agricole, dans le cadre de manifestations, commet des dégradations ou dépose des déchets, ils savent que je suis pas content. Donc c'est pas pour être content derrière.
Là, vous faites allusion aux tonnes de fumier laissées dans la préfecture.
Je le dis très clairement. Je veux dire, pendant les manifestations agricoles, c'est courant qu'il y ait des dépôts de déchets plus ou moins agricoles devant des édifices publics. Ça fait partie d'une forme de manifestation. Je le condamne fermement. Donc c'est pas pour pas condamner les mêmes dispositions prises par d'autres contre le monde agricole. Donc c'est inadmissible, je le condamne. Et j'espère de grand cœur que tous les éléments en cours portés par la Gendarmerie nationale et le parquet de Tarbes permettront d'aboutir.
Alors, on a bien compris, les enquêtes sont en cours, des plaintes ont été déposées. Aujourd'hui, on ne connaît pas les coupables. Pourtant, des circonstances font que les regards se tournent vers des communautés itinérantes, dont l'une d'entre elles était sur le site précisément dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, on va laisser la justice faire son travail, vous l'avez dit, monsieur le préfet, mais quand même, ça pose justement la question de l'accueil de ces communautés itinérantes qui s'installent un petit peu partout dans les villages des Hautes-Pyrénées. On en voit en ce moment dans l'eau Marquisat, mais pas seulement. C'est quoi les règles pour accueillir ces communautés itinérantes? Et puis, comment les élus locaux ils sont aidés pour pouvoir les accueillir puisqu'ils arrivent? Ils ont besoin d'eau, d'électricité, ils ont besoin d'eau, y compris quand il y a des restrictions d'utilisation d'eau, de consommation d'eau. Quelles sont les règles, monsieur le préfet?
Alors déjà, dans le cadre du travail qui est accompli pour avoir un schéma d'accueil des gens du voyage, donc qui est un document qui est élaboré, alors la compétence d'accueil des gens du voyage, c'est une compétence qui relève de l'établissement public de coopération intercommunale, donc des communautés de communes. Il y a un schéma départemental qui est élaboré lors de la dernière réunion qu'on a faite pour lancer une révision de ce plan. Et je veux saluer ici l'engagement de tous les élus, hein, parce que quand on discute, trouver des terrains, aujourd'hui on a besoin de terrains pour plein de choses, trouver des terrains pour accueillir des gens du voyage, ça nécessite toujours un gros travail de conviction auprès des élus, auprès des habitants, pour identifier ces terrains. Donc ce travail, il est engagé depuis plusieurs années. On essaye d'identifier des terrains, et il se trouve que sur la communauté de communes Adour-Madiran qu'on évoquait, Frédéric Rey, le président, a toujours été à la recherche de solutions constructives. Après, je rappelle souvent, quand je le rencontre, des représentants de la communauté des gens du voyage, qu'il y a des règles dans ce pays. On respecte leur mode de vie, mais il y a des règles. Alors la première des règles, c'est quand on décide de venir dans un département avec 100, 150 caravanes, on en avise la communauté de communes dans laquelle on vient. On réserve des places sur l'aire de grand passage, et s'il n'y a pas de place, on essaye, avec les élus en charge d'eux, de trouver une solution. Mais en aucune façon, on ne vient s'imposer sur un terrain en dégradant des infrastructures qui souvent ont été financées par la puissance publique, en utilisant des moyens de lutte contre l'incendie pour laver les caravanes. Ce sont des dispositifs, c'est pas tous, sans doute. Mais si on veut être respecté, la première obligation, c'est de respecter les règles. Donc on leur dit, je ne laisserai rien passer. Voilà, je considère, il y a une procédure derrière. Donc la procédure, c'est que le propriétaire du terrain et le PCI dépose plainte, on établit un rapport administratif. Ce sont des choses qui sont compliquées parce que pendant ce temps-là, ils sont là. Il y a un délai pour faire une mise en demeure de quitter les lieux. Et une fois qu'on a fait la mise en demeure de quitter les lieux, parfois ils font un recours devant le tribunal administratif. Je décide d'accorder le concours de la puissance publique, de la force publique, pour les forcer à partir. L'histoire démontre que quand on en est à ce stade-là de la procédure, de même, ils s'en vont. Si on regarde à l'échelle du département les occupations de terrains illicites, il y a assez peu de fois où on est obligé d'envoyer des escadrons de gendarmerie mobile et d'en venir au recours à la force.
Alors de même, ils s'en vont, mais cela dit, parfois le mal est fait, c'est-à-dire ils se sont installés et les élus locaux sur place, eh bien, ils ont été très vite débordés parce que quand des centaines de caravanes arrivent, s'installent, se branchent sur les réseaux d'eau ou d'électricité, comment faire? Ils n'ont pas forcément envie d'aller dans la confrontation, et on les comprend.
Oui, non, mais le sujet revient régulièrement, il n'est pas propre au département. À chaque fois, on essaye, et c'est ce que fait très bien Frédéric Rey, je le redis, pour la communauté de communes Adour-Madiran, il y a toujours ce contact, cette prise de contact, de proposer un terrain, de dire j'ai un terrain qui est disponible. Les gens sensés, en tout cas, disent oui, il y a une convention qui est établie, ils disent je vais rester 15 jours, je vais payer tant à la commune, et on essaye. Quand il y a une convention, en général, ça se passe bien.
Mais avec ces communautés itinérantes, est-ce que c'est possible d'établir des conventions quand on ne sait pas trop quand et combien?
On peut établir des conventions. L'idéal étant qu'on ait toutes les aires de grand passage nécessaires. Est-ce que ce sera suffisant? J'en sais rien. Mais ce qui est vraiment important, c'est que, en tout cas, la puissance publique, les collectivités, l'État, on ne se met pas en défaut de procédure. Par contre, je passe un message, je ne sais pas s'ils écoutent Radio Présence, mais pour les gens du voyage, et alors d'autant plus, je le dis parce que ça a le don de m'irriter, que c'est des gens qui sont dans des communautés évangéliques, donc ils portent un message de paix, de respect d'autrui. Le respect d'autrui, ça commence par le respect du bien matériel d'autrui, du fruit du travail des collectivités, des agriculteurs qui parfois voient leur champ envahi alors qu'ils ont des cultures dessus. C'est de dire qu'il faut respecter. Et l'exemple que je donne toujours aux gens du voyage, c'est lorsque vous décidez de prendre des vacances, que vous avez réservé un hôtel du 10 au 15 juillet pour 4 personnes, si vous arrivez le 8 juillet en disant que vous êtes 40 et vous voulez 12 chambres, je ne connais pas un hôtelier qui vous prend. Donc le sujet, il est là, il faut respecter les règles, donc les communautés itinérantes doivent respecter les règles, et derrière, on fait le travail nécessaire avec les collectivités pour améliorer les conditions d'accueil. Dans les choses qui se passent bien ou qui se passent de mieux en mieux, je le dis parce que nous sommes à Lourdes, le pèlerinage annuel des gens du voyage à Lourdes se passe de mieux en mieux parce qu'on a réussi à construire cette relation de réservation de terrain, d'ordre d'arrivée, de calibrage des terrains.
Et parce que les forces de l'ordre sont peut-être davantage déployées sur le terrain à ce moment-là pour surveiller, entre guillemets, quand
alors,
tout se passe bien.
Les forces de l'ordre qui sont présentes lors du pèlerinage des gens du voyage, elles sont surtout destinées à veiller au respect de la canalisation des flux. On a assez peu on a de moins en moins de problèmes sur les occupations de terrain. On en a toujours un petit peu, hein, c'est résiduel. Et puis il y en a qui profitent aussi, qui viennent pas au pèlerinage des gens du voyage, mais qu'on profite pour s'installer sur des terrains.
Groupe, ouais.
Mais le principe de base là-dedans, et il faut vraiment que les gens l'entendent, c'est de respecter les règles. De manière générale, et pas que pour cette communauté-là, si tout le monde respecte les règles, moi je serais un préfet très heureux, et le plus heureux des préfets, si les gens respectaient le code de la route. Voilà, en venant ici dans vos studios, on n'a pas relevé toutes les infractions, mais on a assisté à un certain nombre de stops grillés, etc. Mais tout ça, ça met les gens en danger. Parfois, il y a des incidents graves. Donc moi, je pense que le message aujourd'hui, c'est respectons les règles. Mmh. C'est ça, le contrat social. Et ça permet d'ailleurs de mieux vivre ensemble.
Pour en finir sur les gens du voyage et les communautés itinérantes de manière plus large, vous savez combien sont attendus là dans les Hautes-Pyrénées au cours de cet été? Vous savez où ils vont arriver et à combien ils vont arriver?
En fait, on ne sait jamais. Enfin, c'est le
principe. Combien sont annoncés officiellement en tous les cas?
En tout cas, s'ils respectaient les règles, ceux qui annoncent et qui respectent les règles, on a des dates à peu près de passage. Alors, c'est pas une centaine de véhicules quand ils s'annoncent, mais on sait sur quel terrain ils vont. C'est perlé sur l'été, donc il n'y a pas j'ai pas de grands chiffres à vous communiquer là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui est l'irritant, c'est évidemment ceux qui ne s'annoncent pas, qui s'installent sur les terrains qui ne sont pas prévus. Et donc, comme ils ne sont pas prévus et qui ne s'annoncent pas, il m'est difficile de vous donner le chiffre.
Et ça entraîne un espèce de climat de suspicion. C'est ça qui est dommage, en fait.
C'est un climat de suspicion et ça jette effectivement l'opprobre. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que moi, je ne fais pas de raccourci, mais il est loisible de faire un raccourci en disant des gens s'étaient installés à l'abri de la pluie, de l'orage, avec l'accord de la mer sur le parking du marché de Rabastens pour être à l'abri d'un orage. Je veux espérer que des gens à qui on a tendu la main n'ont pas saccagé le marché aux bestiaux de Rabastens.
Jean Salomon, vous êtes de passage dans les studios de Radio Présence à Lourdes. On ne peut pas vous laisser partir sans peut-être un mot sur le Tour de France dans une semaine. On sera en plein Tour de France, deux étapes qui concernent les Hautes-Pyrénées en tous les cas. Comment ça s'annonce là, de ce point de vue-là? Des caravanes aussi, pas les mêmes.
Alors, le Tour de France, c'est presque une figure imposée dans le département des Hautes-Pyrénées. J'ai la chance de vivre ma quatrième édition du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées, avec des variations entre une et trois étapes.
Vous êtes rodé.
Je suis rodé et surtout, c'est pas moi, c'est mes équipes. Enfin, mes équipes sont rodées. La collaboration avec Amaury Sport Organisation est rodée. C'est quelque chose qui tourne. On reste toujours vigilant, justement parce que...
C'est quoi le plus grand danger? Il y en a un.
Le plus grand danger, toujours, c'est un accident pendant la course ou un autre événement dans le département qui nécessite de déplacer des forces. Parce qu'évidemment, pendant qu'il y a le Tour de France, la vie continue. Moi, je crois vraiment que on voit bien l'exemple du Tour de France et l'exemple, j'allais dire presque emblématique, de quelque chose de bien préparé avec les services de l'État, avec les services du Conseil départemental, avec les communes, qui se préparent un an avant. Enfin, quand le Tour de France se termine, on est déjà dans la préparation du suivant. C'est quelque chose de bien huilé. Chaque année, on réinterroge tous les dispositifs pour pas se dire on passe au même endroit. Le Tour Malais, c'est facile. Enfin, c'est facile d'organiser, le monter, je sais pas. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce travail de confiance aussi. Donc moi, je suis serein, mais je serai vigilant.
Et on imagine aussi pour vous un été un peu studieux pour préparer l'avenue du Pape à Lourdes à la fin du mois de septembre.
Alors effectivement, là aussi, là ça se prépare, c'est moins courant que le Tour de France. Mais effectivement, on est déjà évidemment avec les équipes de la Conférence des évêques de France, avec les équipes du ministère de l'Intérieur, avec les équipes du diocèse de Tarbes-Lourdes. On travaille à cette séquence d'organisation avec les équipes du Vatican. J'avoue que c'est passionnant, ça va nous occuper évidemment tout l'été. On passera rapidement des messages à l'usage des futurs participants, hein, sur notamment le fait de favoriser des transports en commun, du déplacement groupé.
Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si les routes seront bloquées quand on vient de Trie-sur-Baïse.
Il est trop tôt pour le dire, mais il est évident que il y aura une partie de aux abords immédiats du sanctuaire et de la ville de Lourdes qui feront l'objet de très fortes restrictions de circulation, parce que je dois assurer aussi la sécurité, la fluidité de 150 ou un peu moins de 200 000 personnes qui pourraient être accueillies sur le site du sanctuaire, et d'assurer la sécurité de ces gens-là, notamment la fluidité des véhicules de secours, si on devait avoir besoin d'évacuer une personne victime d'un malaise ou de quelque chose de plus grave.
Et nous serions très heureux de vous avoir dans nos studios au début du mois de septembre pour évoquer toutes ces questions-là avec plus de détails.
Avec plaisir, si vous m'invitez.
Merci beaucoup, monsieur le préfet.
Merci beaucoup.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors, on l'avait déjà révisé l'autre jour, donc là, elle est pratiquement au point maintenant, cette machine à remonter le temps, puisque nous allons l'emprunter aujourd'hui pour suivre un écrivain anglais qui est né en 1858, ou une date qu'on connaît bien, Lourdes.
Oui.
Qui parcourt les Pyrénées.
Il s'agit de Charles Richard Weld, et qui a déjà publié, quand il vient, de nombreux récits de voyage, et puis il va parcourir les Pyrénées, lui, d'ouest en est, et ce sera un autre récit de voyage.
Il a donc l'habitude de voyager. Alors il faut croire que la diligence qu'il emprunte pour aller à Toulouse et à Foix est aussi vieille qu'il le dit, car il la trouve bien peu confortable. Et pourtant, il monte dans le coupé où sont les places de luxe.
Le coupé, Philippe, j'ai bien vérifié, est à l'avant de la diligence et comprend généralement 3 places. On y respire moins la poussière que la diligence soulève et on a une vue relativement étendue. Au milieu, il y a l'intérieur ou la berline et à l'arrière de la diligence se trouve la rotonde.
Les diligences sont tirées par 4 chevaux et se déplacent assez lentement. Parti le soir de Toulouse, il arrive à Foix à 4 heures du matin.
En 1843, Philippe, quand Victor Hugo, dont nous avons parlé, vient dans les Pyrénées, il fallait compter une quinzaine d'heures pour aller de Bordeaux à Bayonne. Elle se déplace donc bien lentement, comme vous l'avez dit.
Et avant de monter dans la diligence, nous allons faire un petit tour à Toulouse en 1858. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Charles Richard Weld a parcouru les Pyrénées d'ouest en est il y a exactement 160 ans, car c'était en 1858. Il est un des rares écrivains britanniques à avoir parcouru la chaîne de l'océan à la Méditerranée, du Pays Basque au Roussillon. Il parle le français pour avoir séjourné pendant son jeune âge en France, dans un château près de Dijon. Quand il parvient à Luchon, il se dirige vers Toulouse avant de gagner l'Ariège. Et voici ce qu'il écrit. Bien que ce soit une ville où règne l'abondance, Toulouse n'est pas un lieu de séjour désirable. Les rues sont balayées par des rafales de vent qui soulèvent de denses nuages de poussière, apportées depuis la plaine sablonneuse, et qui rendent l'atmosphère aussi sombre que celle d'un jour de brouillard à Londres. Des orages d'une intensité extraordinaire sont aussi très fréquents. Tandis qu'un matin, j'étais en train de dessiner sous le mur d'une église désaffectée, je fus presque renversé par un coup de tonnerre d'une violence si grande que pendant un instant, j'imaginais que toute l'artillerie, y compris le magasin à poudre, avait explosé d'un seul coup. Ce phénomène ne s'était cependant pas produit bien loin, car en prenant mon petit déjeuner à la table d'hôte, j'entendis dire par des officiers que la foudre était tombée sur l'angle d'un bâtiment dans la cour de la caserne, près de l'endroit où j'étais en train de dessiner. Pendant l'été, la chaleur convient beaucoup mieux aux insectes qu'aux êtres humains. Il y en a en abondance et de toutes les espèces. Les brillants cafés de la place du Capitole étaient remplis le soir par ce que Cuvier aurait appelé une effroyable richesse d'élégants papillons blancs qui couraient à leur propre perte en se précipitant dans les nombreux jets de gaz et dont les restes calcinés recouvraient littéralement le sol. Donc, ma curiosité satisfaite, j'avais hâte de me retrouver à nouveau parmi les montagnes. Et après avoir envoyé mes bagages les plus lourds en train jusqu'à Narbonne, je quittais Toulouse le soir, pour Foix, dans une diligence qui avait dû être construite au temps de mes grands-parents. J'avais loué un siège dans le coupé, et comme celui-ci était loin d'être spacieux, j'étais assez anxieux de voir qui allaient être mes compagnons de voyage pour la nuit. Un monsieur était déjà assis dans un coin, et un officier vêtu d'un manteau de voyage occupait l'autre. La perspective n'était guère engageante, car ce dernier était en train de fumer un cigare colossal de très mauvais tabac. Craignant qu'il n'eût l'intention de fumer pendant toute la nuit et ne pouvant absolument pas supporter le tabac dans un lieu clos, je pensais qu'il valait mieux protester tout de suite contre une telle pratique. Ma requête n'ayant pas été acceptée, je cherchais le conducteur et lui demandais d'interdire de fumer dans le coupé. À peine avais-je prononcé ces mots que notre guerrier sauta de la voiture dans un grand état de rage et une altercation s'ensuivit qui me laissa à penser qu'il avait le désir d'utiliser un instrument plus acéré que sa langue. Je m'en tins cependant à ma résolution de ne pas avoir de fumeur dans le coupé. La colère de l'officier finit par se calmer et il se contenta de pousser quelques grognements indistincts pendant le reste de la nuit. Après m'avoir bien secoué et m'avoir fait faire un voyage bien désagréable, la diligence branlante, à ma grande surprise, me déposa à Foix sain et sauf à une heure froide et lugubre à 4 heures du matin. Ce ne fut pas sans quelques difficultés, car il faisait toujours nuit, que je trouvai l'hôtel du Rocher de Foix. Je réveillai un garçon qui dormait en donnant de vigoureux coups sur la porte. Et, quelques minutes plus tard, je me retrouvai dans un très grand lit, placé dans une très grande pièce à l'aspect mystérieux, où je m'endormis aussitôt. Lorsque je me réveillai, comme tout avait changé en quelques heures, mon logement était inondé de soleil. Et après avoir ouvert les fenêtres, je vis le pittoresque château de Foix avec son majestueux donjon perché sur un rocher juste devant moi. Au-dessous, de curieux vieux bâtiments se pressent les uns contre les autres entre le rocher et les flots écumants de l'Ariège. Tandis que derrière, s'étendant à perte de vue, s'élevaient les majestueux sommets de la partie orientale des Pyrénées. Le département dont Foix est le chef-lieu tire son nom de la rivière Ariège ou Auriège, Auriféra, comme on l'appelait jadis à cause de l'or trouvé dans les sables de son lit, en particulier entre Campugnac et Foix. Au milieu du siècle dernier, on extrayait de la rivière une quantité de métal précieux suffisante pour donner du travail à de nombreux chercheurs d'or. Un auteur français parlant, au début de ce siècle, de la richesse minérale des Pyrénées dit « Cet or est à 22 ou 23 carats. On le vendait autrefois 80 francs l'once à la monnaie de Toulouse, qui en recevait jusqu'à 200 marques, environ 1800 onces de Troyes, chaque année. Je dis autrefois parce que les orpailleurs sont maintenant, en 1811, moins nombreux. On paraît s'être dégoûté d'une profession qui ne produit que 20 à 30 sous par jour, sauf dans des circonstances très rares où quelques ouvriers gagnent beaucoup plus. Il y avait, bien entendu, de nombreux sujets de croquis à foie. Mais avant d'ouvrir mon carnet de dessin, il fallait penser au petit déjeuner. Je le pris en compagnie d'une demi-douzaine de Français mal élevés qui, comme ils étaient aussi affamés que moi, m'obligèrent à me démener pour obtenir une part équitable des plats. En pareil cas, la discrétion risque fort de vous faire mourir de faim. Vous devez donc imiter vos voisins et vous servir. Même si Charles Richard Weld a 45 ans lors de ce voyage, on songe en le lisant à l'adage « Les voyages forment la jeunesse ». Il lui faut affronter à Toulouse le vent, les orages, les myriades d'insectes, en diligence, les voyages nocturnes peu confortables. À foie, les Français mal élevés. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Charles Richard Weld, ouvrage intitulé « Les Pyrénées d'Ouest en Est », ouvrage publié par les éditions Loubatière en 2003, mais dont la première publication date de 1859.
À mon avis, Anne, il n'a pas dû donner à ses contemporains l'avis de visiter Toulouse. Toulouse, alors d'après lui, ressemble à Londres, un jour de brouillard. Il y a un vent violent et des orages encore plus violents.
Et Philippe, la ville est infestée d'insectes. Oh. Le soir, le sol en est couvert.
Quand il arrive à Foix, il évoque que les chercheurs d'or, les orpailleurs, une partie de l'Ariège depuis le nord de Foix jusqu'au nord de Pamiers, a longtemps attiré donc ces chercheurs d'or.
Oui, c'est une rivière aurifère en cette partie du côté de Foix, et l'orpaillage était certainement pratiqué en Ariège déjà, Philippe, à l'époque gallo-romaine. Et au XVIIIe siècle, il y avait en Ariège une cinquantaine d'orpailleurs.
L'hôtel des Monnaies de Toulouse enregistrait chaque année à peu près 50 kilos d'or en provenance uniquement de l'Ariège.
Oui, 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 ce qui me semble énorme. Et l'auteur cité par Richard Weld évoque 1811-3 d'or, et l'once 3, dont le nom vient de la ville de Troyes, pèse un peu plus de 31 grammes.
Alors, de nos jours, un article de journal nous apprend que l'on a trouvé une pépite de 1 gramme dans l'Ariège.
Oui, de temps en temps, on peut lire ça dans le journal. Donc.
Le journal local.
Oui,
il y a toujours de l'or à l'Ariège.
Oui, qu'il y a toujours un petit peu d'or, mais bon, ce n'est des petites quantités, apparemment. Et je crois que l'on peut suivre en Ariège, d'ailleurs, des stages d'orpaillage.
Ah, ça doit être sympathique, oui. Ça. Et puis, oui, voilà. La semaine prochaine, ben, nous irons. Alors là, on n'y a pas été souvent. Hein. Je crois même que c'est la première fois. Nous allons aller au Val d'Aran. Pourtant, ce n'est pas si loin de chez nous.
Non, ce n'est pas loin, mais nous n'y sommes effectivement jamais allés. Donc, il faut réparer cette erreur, cet oubli.
Cet oubli, voilà. Voilà. Donc, nos amis espagnols seront à l'honneur. Et puis, cette Val d'Aran, pour aller à Val d'Aran, oui. On passe souvent par la vallée de Barousse.
Oui.
Qui est toute très jolie
qui
aussi.
Qui est très belle, oui.
Qui est très, très belle, la vallée de Barousse. Et bon, voilà, notre destination pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to.
Présence à Gourdon, 104.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Scène de désolation et incendie en cours à Kiev, bombardée cette nuit par salves de missiles et de drones russes, la capitale ukrainienne a